Inter, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui avec Philippe Labro, le gangster le plus célèbre de l'histoire, Al Capone. J'avais une envie folle de lui envoyer du plomb dans le ventre. Mais je vous l'ai dit, j'ai toujours été un sentimental. Al Capone, mémoire. Ans d'histoire. Quand Al Capone est mort paisiblement dans son lit en 1947, on pouvait lire dans le Chicago Tribune « Avec ce génie du crime en qui coulait le sang de nos pionniers, c'est un peu de la jeunesse de l'Amérique qui s'en va. » Comme si cette Amérique que Capone avait mise à feu et à sang appartenait déjà au passé. Il est vrai qu'entre son arrestation et sa mort, 17 ans s'étaient écoulés et l'Amérique avait beaucoup changé. Elle avait connu le New Deal, la fin de la Prohibition, les quatre mandats de Roosevelt, Pearl Harbor, la guerre et la victoire de 1945 qui avait fait des États-Unis la plus grande puissance du monde. Mais on s'y souvenait encore de l'époque où Al Capone était lui-même si puissant que lorsqu'on avait demandé un jour au président Hoover à quoi il pensait le matin en se rasant, il avait répondu à Al Capone. 10 ans plus tôt, pourtant, personne ne connaissait encore ce petit immigré italien de 20 ans, arrivé à Chicago en 1919, l'année où commençait la Prohibition, qui allait faire de lui le gangster le plus riche et le plus célèbre de l'histoire.
It began in 1919. The story of a bitter 10-year fight that was waged.
Tout a commencé en 1919. L'histoire d'un combat sans merci entre Chicago, ville prospère et en plein essor, et un criminel sans foi ni loi. Sois le bienvenu à Chicago, Al. Voici mon vieux pote Al Capone de Brooklyn. Il sera mon nouveau garde du corps. Le 16 janvier, c'est la Prohibition. Il ne pouvait rien nous arriver de mieux. On va devenir riche. Je vais faire des affaires.
Philippe Labro, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était l'arrivée à Chicago de celui qui allait en faire la capitale du crime, Al Capone, qui a inspiré le premier de vos 16 romans et nouvelles en 1960, Un Américain peu tranquille. Alors un livre qui est resté introuvable pendant des années, jusqu'à ce qu'il ait été réédité ces jours-ci chez Folio. Pour faire d'Al Capone quand même le héros de votre premier roman en 60, il fallait vraiment qu'il vous inspire, Philippe Labro.
Il fallait que l'Amérique m'inspire. Je débarquais des États-Unis, moi je venais d'y vivre 2 années d'études. Et je commençais ma carrière en journalisme et un petit génie du journalisme de l'époque qui s'appelait Pierre Lazareff m'a commandé le livre en fait. C'est pas moi qui ai voulu le faire dans une série qui s'appelait Le crime ne paye pas, qui était adaptée d'une bande dessinée. Et donc j'ai un peu choisi, il m'a choisi. Il est vrai que ça correspondait à ce que m'avait une vision, j'en avais plusieurs, de ce que je venais de comprendre de l'Amérique, sa complexité, ses racines et sa violence.
Alors justement, bon, Al Capone, vous le rappelez, il est né en Italie en 1899. Il est né à Naples, très jeune, ses parents l'amènent à New York. Et il fait partie, c'est le plus célèbre, même de toute une série de gangsters qui sont presque tous immigrés de fraîche date aux États-Unis. La majorité étant les Italiens, comme Capone ou comme d'autres dont nous parlerons. Il y a aussi les Irlandais, il y a des Juifs, il y a des Allemands. Pourquoi ce lien entre l'immigration et le gangstérisme aux États-Unis, Philippe Labro?
Parce que ces gens-là se sont aperçus en arrivant qu'ils étaient dans une terre sauvage, hein, des villes sauvages, avec un ordre à peine établi, et que la manière la plus rapide d'aller vers le succès, la réussite, le confort matériel, c'était peut-être de passer à côté et au-dessus des lois. Donc il y a quand même... Pourquoi un criminel devient criminel? Il y a une nature qui fait qu'il décide d'y aller. Mais je crois que, de toutes les façons, toute l'Amérique est faite de l'immigration. Donc, on pourrait aussi dire pourquoi, du côté de la réussite et de la vertu, c'était des Anglais, des Polonais, des Allemands, des Autrichiens. Ils sont tous venus d'ailleurs pour faire l'Amérique avec le bien et le mal. Un mal majuscule, bien sûr.
Alors, le mal, Capone va le faire très tôt à New York, hein, où il passe les 20 premières années de sa vie. Enfin, pas tout à fait, mais une quinzaine, puisqu'il a vécu à Naples aussi. Et alors, il le fait à New York, dans la prostitution. Enfin, il a des activités plus ou moins louches. Il en revient d'ailleurs, quand il ira à Chicago, c'est avec une superbe psychiatrice, une balafre qui le fera appeler Scarface. Vous dites que c'est, lui avait dit que c'était à la guerre qu'il l'avait obtenu. C'est pas vrai du tout, Philippe Labro.
Non, la vérité, c'est comme toujours, c'est qu'on ne sait pas véritablement d'où ça vient. Moi, j'ai interprété, parce que c'est un, comme vous dites très bien, c'est un roman, mon livre. C'est pas tout à fait une biographie très officielle, très documentée.
Non, mais j'ai vérifié que ce que vous dites est vrai dans ce roman.
Bon, ben alors, hein, ça va. Donc, comme j'ai écrit il y a à peu près 40 ans, il a simplement simulé la balafre dans son camp d'entraînement de l'armée où il était engagé pour faire comme s'il avait pris ça au front, enfin au front de guerre bien sûr, au combat, et en réalité
France, hein, c'est...
Oui, en France bien sûr, puisqu'il devait partir avec les troupes américaines pour la guerre de 14-18, et sans doute pour avoir l'air plus dur, parce qu'il considérait, enfin c'est ma vision, qu'il avait un visage un peu poupin et un peu trop naïf, un peu trop innocent, donc pour sortir de là avec une gueule de dur, eh ben il s'est balafré, voilà. Il s'est auto-mutilé.
Alors, il arrive à Chicago pour se mettre au service de Johnny Torrio, hein, qui lui-même appartenait au gang du plus grand gangster de la ville, Big Jim Colosimo, un trio, une association qui n'allait pas durer longtemps, puisqu'un an à peine après l'arrivée d'Al Capone à Chicago, Johnny Torrio et Al Capone songeaient à se débarrasser de leur patron.
Big Jim Colosimo, il aurait voulu m'écouter il y a seulement un an. On pourrait avoir le monopole de la bière maintenant.
À mon avis, il faudrait ne plus s'occuper de lui, Monsieur Torrio. Il faut vous mettre à votre compte.
Alphonse, t'as du plomb dans la tête. T'es ambitieux. Et tu n'as peur de rien. Tu as les qualités qui peuvent faire de toi un homme important si tu mets entre mes mains ton habileté. Peut-être même ta vie.
Je vous l'étonne, padrone. Sur la tête de ma mère, je vous le jure.
Big Jim. Big Jim. Un homme très bien. Il s'est montré bon avec moi. Il faut que ça se passe sans qu'il puisse avoir de soupçons, ni de peur.
Et c'était l'atmosphère à Chicago en 1920 quand Big Jim Colosimo était tué par ses deux associés, Capone et Johnny Torrio. Qu'est-ce qui faisait, Philippe Labro, de Chicago la capitale du gangstérisme? Pourquoi pas San Francisco ou New York?
Bah, New York, c'était pas une ville innocente, hein.
Oui, il en venait, c'est là qu'il avait commencé.
Non, Chicago, n'oublions jamais, c'est les Américains l'appellent la deuxième cité, après New York, hein. C'est la deuxième ville la plus importante des États-Unis. Il faut la situer sur la carte, c'est en plein Middle West, c'est donc au centre de l'Amérique, c'est la ville des Grands Lacs. Donc par les Grands Lacs peuvent passer tous les bateaux qui amènent les caisses d'alcool du Canada, hein, en prohibition. C'est un carrefour, c'est un point de passage obligé, c'est le péage de toute la grande migration américaine vers l'ouest. C'est aussi l'ouverture sur le grenier à blé, sur le grenier à porc et à viande. Chicago est une ville extraordinairement importante dans la diffusion et la fabrication de tous les produits qui font vivre l'Amérique. Une ville clé, une ville pivot. Et elle est, comme toutes ces villes dans les années 20, pratiquement sauvage. Bien sûr, il y a un maire, bien sûr, il y a une police, mais tout ça est corruptible, corrompu. C'est le rêve pour un criminel. C'est un endroit, c'est un terrain vierge ou presque, où il y a une tradition, de toute façon, de violence qui remonte à bien avant les années 20. Il y a eu les Indiens par là. Tous les noms, des lacs, des rues, des régions et tout sont des noms d'Indiens. Ça a été le théâtre de beaucoup de massacres, de bagarres. C'est pas une ville pacifique, je peux vous dire.
Alors le gangstérisme, vous évoquiez justement le trafic qui se fait à travers les Grands Lacs ou près de la frontière canadienne. Il repose d'abord, on l'a bien compris, sur ce qui a fait la fortune au fond du gangstérisme et des gangsters. C'était la fameuse Volstead Act, votée en 17, appliquée en 1919. La prohibition, Philippe Labro.
Oui, c'est quand même une décision aberrante. C'est toujours pareil, vous interdisez quelque chose aux gens, ben, ils voudront quand même le consommer, et par conséquent, ils iront l'acheter illégalement, ce qui fera la fortune de ceux qui sont capables de vous donner cette chose illégalement. Donc c'est ça qui s'est passé, on a interdit l'alcool dans les établissements publics. Ben, vous imaginez que l'Amérique allait s'arrêter de boire? Il fallait vraiment être naïf puritain, comme était Falstead, comme était toute cette équipe de d'hommes politiques qui ont cru qu'ils pouvaient apporter un peu de vertu à un pays qui en a, certes, mais qui par ailleurs a aussi ses goûts et sa débauche. Donc voilà ce qui s'est passé, tout simplement. La prohibition a fabriqué une partie de ce qu'on appelait les rackets et le gangstérisme. Mmh. Ils se sont rués là-dessus. Tout, c'est comme la prostitution, c'est comme la drogue.
Mais parce qu'ils ont créé des empires où ils intégraient vraiment toute la chaîne de l'alcool. Il y avait bien sûr le transport clandestin qui se faisait en venant du ça venait du Canada, qui lui ne connaissait pas la prohibition. À Chicago, la construction de plusieurs distilleries clandestines, des bars clandestins qu'on appelait des speakeasies. Alors c'était tellement lucratif, évidemment, que les gangsters s'arrachaient, si je puis dire, le marché. Et ça a entraîné des règlements de compte hallucinants, dont Capone, au début, parce qu'après il se gardera bien de toucher une arme, en tout cas de s'en servir, au début était un vrai criminel.
Ah bah c'est un tueur, oui, on lui confiait les missions d'aller exécuter ceux qui vous dérangeaient, oui, il était un homme de main.
Bah, Colosimo, par exemple, oui, son patron.
Il était ce qu'on appelle un soldat, parce que c'est organisé comme des armées, il y a des généraux, il y a des brigadiers, des caporaux-chefs, et puis il y a les soldats, et c'était un soldat qui avait pas froid aux yeux, qui n'avait strictement aucune éthique, ni aucune morale, tuer ne le dérangeait pas, il pensait que ça faisait partie de la loi de la vie, la loi de la jungle, et donc il a construit son ascension comme ça, mais aussi parce que l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure le démontre, on s'est vite aperçu qu'il était beaucoup plus intelligent que les autres, beaucoup plus malin, beaucoup plus calculateur, beaucoup plus d'ailleurs retors et comédien, il mentait, il a trahi tout le monde pour arriver au sommet, c'est l'histoire typique.
Il ment tellement bien, d'ailleurs, qu'il a une superbe couverture, parce que, en dehors de ses heures de bureau, si je puis dire, ou de travail, il habite dans une maison qu'il a achetée près de Chicago, à Chicago, et sur laquelle il se fait passer pour un antiquaire, un marchand de meubles d'occasion.
Exactement, oui, mais ils sont tous achetés des respectabilités. Il y en avait d'autres. Souvent, ils avaient des restaurants, ou alors des blanchisseries, des épiceries. Vous savez, ça ressemble énormément, et c'est pour ça que c'est un film admirable, à la trilogie du parrain de Francis Ford Coppola. Rappelons-nous, le parrain, Brando, qu'est-ce qu'il a ? Il a eu une petite entreprise d'huile d'olive. C'est pareil. Et derrière ça, il y a le vrai pouvoir, le vrai travail d'influence, le trafic d'influence et le terrorisme. On terrorise les autres, on les rackette. Tu payes, d'accord, tu survis. Tu payes pas, on te tue.
Alors justement, parmi les gens qui avaient une belle couverture aussi, il y avait celui qui était au tout début des années 20, avec Al Capone, avec Colosimo, qui est mort, avec Torrio, un Irlandais, qui était au Bagnone. Alors lui, il avait une magnifique couverture, il était fleuriste. Et c'est dans son magasin de fleurs, vous le dites, qu'il a été assassiné, effectivement, oui. Parce que c'était un concurrent.
Oui, au milieu des fleurs. C'était un concurrent, c'est ça, parce qu'on a affaire à quoi ? Tout simplement, une guerre de territoire. Chacun a essayé d'avoir son quartier, mais le quartier suffisait pas, il fallait qu'on l'étende à un arrondissement et puis pratiquement toute la ville. Donc on se bat pour obtenir d'autres rackets, et jusque-là la ville était à peu près partagée entre différents territoires, dont celui tenu par O'Banion, les Irlandais. Eh ben, il a fallu l'envahir, le territoire, le détruire. Mais la raison aussi, c'est qu'elle est ethnique. Il ne faut pas oublier, ce sont les Italiens contre les Irlandais, les Wops. Ouais, c'était le mot argot.
Contre les mix,
les Irlandais. Ouais. Ça joue aussi. Il y a ça qui joue quand même. C'est des tribus. Il faut en revenir à la notion de tribu. Il faut en revenir à la préhistoire.
Et une guerre d'autant plus violente que finalement elle se fait impunément, elle se fait alors que la police, la justice, les hommes politiques ferment les yeux, tous corrompus par Jimmy Torrio et Al Capone.
Vous êtes très fort, monsieur Torrio. Dès que vous lui avez passé le fric sous le nez, vous le teniez par la peau des couilles.
Oh, la ferme ta gueule. Enfin, Alphonse, tu peux pas réfléchir avant de parler. Allez, viens. Je vais te dire une chose. À partir de maintenant, nous allons traiter avec des gens très importants. Les juges, les avocats, les hommes d'affaires, les hommes politiques. Pour aller partout avec eux, il va falloir que tu apprennes à leur ressembler, à marcher et à t'habiller comme eux. Et le plus important, il va falloir que tu apprennes à parler comme eux. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ?
Oui, monsieur Torrio. Bien sûr.
Andiamo. Monsieur Capone.
Ah, sénateur, qu'est-ce qui vous amène de Springfield ?
Je veux remercier Johnny Torrio pour sa contribution à la campagne libérale.
Nous prenons soin de nos amis, sénateur. Où est-ce que Johnny peut vous joindre ?
Je suis au Drake pour 2 ou 3 jours.
Parfait. Amusez-vous bien. Attention au sénateur.
Oui, oui, monsieur Capone.
Et Et c'était un extrait du film Capone de Steve Carver. Vous dites, Philippe Labro, que les trois quarts des bénéfices de Capone allaient directement dans les poches des politiciens ou de la justice.
Je ne sais pas s'ils sont les trois quarts, mais enfin une très très grosse partie, bien évidemment, puisque c'était grâce à leur protection qu'ils pouvaient impunément continuer son activité de racketteur et de criminel. Alors pour la simple raison, d'ailleurs c'est évoqué dans le cours extrait qu'on vient d'entendre, que tous ces hommes avaient besoin d'argent pour leurs campagnes électorales. Il faut bien voir que du plus petit juge d'un comté, ou du plus petit shérif d'un comté, au sénateur le plus important, ce sont des gens qui ont été élus et qui souvent sont pauvres, enfin sont plutôt...
En tout cas mal payés.
Oui, mal payés. Et par conséquent, ils sont sujets, pas tous, hein, n'exagérons pas. Quand je dis que tout le monde est corrompu, c'est un peu expéditif. Il y a des hommes honnêtes dans la vie politique américaine, comme ailleurs. Enfin, une grande partie est susceptible d'être corrompu, d'être acheté. Alors qu'en échange de telles protections, on a autant d'argent. Donc, on ferme les yeux sur telle raquette, on ferme les yeux sur telle maison close qu'on vient d'ouvrir, une maison close qu'on ouvre. Et puis, peu à peu, c'est comme ça qu'on corrompt et qu'on affaiblit une grande partie du système municipal et ensuite même plutôt sénatorial, oui.
Un système, d'ailleurs, que Capone, qui était autodidacte, connaît mal, et vous dites que c'est son comptable, Louis-Philippe Piquet, qui l'a initié à ce qu'étaient justement les juges de paix. Alors, il demandait, c'est quoi? Ils sont mal payés, mais ils sont élus. Alors le chief justice qui est un peu au-dessus, mal payé mais élu, les attornais encore au-dessus, qui sont mal payés, mais en revanche ils sont nommés par les politiciens, donc on va payer les politiciens. Et finalement comme ça il tenait toute la ville dans ses mains, en tout cas les plus hautes autorités, le maire même à un moment donné, Dick Bill Thompson je crois, avait été élu grâce à l'argent que Capone lui avait donné pour sa campagne électorale.
Oui, et ça n'a pas prévalu uniquement dans les années 20, hein. Il y a encore peu de temps, dans les années, disons, 50-60, il y avait de gros soupçons sur l'honnêteté, ou en tout cas la virginité du maire de l'époque, qui d'ailleurs avait une tête de big boss à l'américaine, qui s'appelait Daley, Richard Daley. Son fils lui a succédé, mais la mairie de Chicago était censée être gangrénée de l'intérieur par toutes sortes de pourboires, de corruption, de trafic d'influence. Oui, mais ça, c'est la face cachée du dollar, si j'ose dire, n'est-ce pas? Dans une société où le dollar règne, où le plus important c'est quand même ça, le confort matériel, je dis pas que c'est pas ailleurs la même chose, hein. On n'est pas en France non plus à l'abri de ce genre de travail, ou plutôt de non-travail. La face cachée du dollar, c'est ça. C'est pour réussir, il faut s'aider et se faire aider, et ils se font aider par des gens très très malhonnêtes.
Et comme la ville était entre les mains justement des gangsters, que la police fermait les yeux, apparaît une autre activité. Vous l'avez d'ailleurs cité plusieurs fois, Philippe Labro, c'est le racket, puisqu'il n'y a pas de police, puisqu'il n'y a pas de système d'assurance. L'assurance, elle est faite par les gangsters qui rackettent les citoyens. Et en même temps, c'est assez curieux parce que finalement, on l'aimait bien Capone à Chicago. On savait ce qu'il faisait, on s'en doutait. Mais il était assez populaire parce qu'il savait aussi utiliser son argent dans des œuvres de charité.
Bien évidemment, mais comme toujours dans ces cas-là. Et puis, il avait son côté rond. Alors, bien sûr, il y a la balafre qui n'était pas très jolie, mais il n'avait pas l'air d'un tueur. Il avait plutôt, on lui aurait donné, comme je l'ai écrit dans ce livre que vous avez la gentillesse de mentionner, un Américain un peu tranquille, on lui aurait donné l'Amérique sans confession. Et donc, voilà, les honnêtes gens se laissaient avoir.
Alors, comme toute grande entreprise digne de ce nom, elle va se diversifier ses activités, surtout lorsqu'en 1924, je crois, Jimmy Torrio a tellement peur lui-même d'être descendu qu'il se fait d'abord lui-même enfermer en prison par la police avant de repartir définitivement en Italie et en laissant à son associé Al Capone ce qui est devenu un véritable empire.
Ça ne va pas, Jack. Cette année, je veux que ces chiffres montent à 90 millions. Commencez, on va s'intéresser aux bookmakers du sud de la ville.
Il y a que des gros qui jouent que des petites sommes, ça n'a pas grand intérêt.
Ah oui? Tu sais ce que ça donne, ces petites sommes mises bout à bout? 200 000 $ chaque semaine. Ça fait en un an... Qu'est-ce que ça fait?
10 millions.
10 millions. T'appelles ça des petites sommes?
Je ne sais pas, ces bookmakers noirs, c'est pas facile à voir. Je crois que Johnny ne se tape pas ça.
Et maintenant, ne me parle plus de Johnny. C'est moi qui commande. Moi, Al Capone. Tu comprends ça?
Vous entendez entendez Serenade for a Wealthy Widow, une musique de Fats Waller. Hein,
Serenade pour une veuve riche. Oui. Fats Waller, merveilleux pianiste noir, des légendes du jazz américain, et dont je crois comprendre qu'un jour, comme Capone aimait sa musique, il l'a enlevé, enfin il l'a kidnappé plus ou moins, pour qu'il vienne jouer chez lui.
Alors, à ce moment-là, nous sommes au milieu des années 20, il a vraiment tous les pouvoirs, et c'est un empire qui s'est étendu dans tout le pays. C'est plus limité simplement à Chicago. D'abord, il a obtenu une espèce d'amnistie entre gangsters qui cessent de se faire la guerre parce que ça devenait impossible, ils en seraient tous morts. Et puis alors, il est partout, sur la côte est, sur la côte ouest, également, alors dans ce qui deviendra la maison où il mourra beaucoup plus tard, à Palm Springs, en Floride.
Et ils allaient tous en Floride parce qu'il fait, il faut pas oublier, Chicago, il fait très froid, hein. En hiver, moins 20 degrés, et on l'appelle d'ailleurs la cité des vents, the Windy City. Donc, ben, en hiver, on va en Floride, où là, il y a des palmiers, des jolies filles, la plage, du soleil, où on étale sa richesse, on se sert de sa richesse. Il faut bien en profiter, hein. Donc, effectivement, Capone allait là-bas, de plus en plus fréquemment, parce que c'était aussi ce qu'on appelle un status symbol, un symbole de son statut social. Et la Floride est elle aussi elle-même très corrompue. Hein.
Alors il a une immense fortune considérable. D'ailleurs, il se sert plus. Il agit plus directement. Il a ses hommes de main, donc il est absolument intouchable. Et vous dites, au fond, ce sont pas les fameux incorruptibles du président Hoover qui vont réussir à mettre la main dessus. C'est le fisc, c'est son percepteur.
C'est ça. C'est pas le FBI qui a fini par le faire tomber. Encore que ils ont produit, fourni au fisc, justement, aux inspecteurs des impôts, suffisamment d'éléments et de documents et de témoignages, mais toujours est-il que, et c'est souvent ça l'Amérique, hein, il faut voir aussi que donc la loi a prévalu. La loi a quand même imposé sa loi. C'est parce qu'il avait triché au fisc. Bien entendu, il déclarait pas la moitié de ce qu'il gagnait, cet homme, puisque tout ce qu'il gagnait était illégal, qu'on a fini par le faire tomber. C'est un petit comptable, une série de petits comptables inconnus, des petits hommes en gris qui ont fait tomber cette espèce de magnat du crime. Ça a quelque chose d'absolument exemplaire.
Il est arrêté donc en juillet 1931. Son procès va durer 4 mois et se terminer le 17 octobre 1931 par le verdict du juge Wilkerson.
Mr. Capone, please rise.
Monsieur Capone, levez-vous.
Do you have any statement to make before your sentence?
Avez-vous quelque chose à ajouter?
No, sir. Alphonse Capone, having been found guilty by a jury of your peers.
Alphonse Capone, vous êtes reconnu coupable par le jury. Je vous condamne à payer une amende de $57,000 assortie de $30,000 de frais de justice. Et je vous condamne en outre à 11 ans de prison.
And I hereby sentence you to spend 11 years in a federal penitentiary.
Et c'était la condamnation d'Al Capone le 17 octobre 1931. Ce jour-là, il n'était plus qu'un matricule, le numéro 27312 du pénitencier d'Alcatraz, où il allait passer 9 ans épouvantables, dites-vous, Philippe Labro, non pas tellement à cause des conditions de détention, mais à cause des détenus qu'il va y retrouver.
Mais bien entendu, il va retrouver des hommes, il sera leur égal, même si, en prison, là aussi, il peut, grâce au fric qu'il a toujours amassé, plus ou moins corrompre les gardiens et plus ou moins s'organiser sa petite vie, il n'empêche que la loi est autre, la vraie loi de la jungle, elle est là, et un certain nombre de détenus même veulent se venger de la position de puissance qu'il avait dans la vie civile, si j'ose dire, ou même des malversations dont il avait été l'auteur, certains étaient des amis de gens qui avaient été assassinés par Capone, donc il se passe autre chose, là, d'autant que là, son physique joue en sa défaveur. Il est pas costaud, hein. C'est un petit gros, un peu gras, hein. Il a bien mangé, hein. Il a bien vécu. Et il est face à des vrais brutes. Et il va être martyrisé. Il va être littéralement brisé, hein. Et moralement et physiquement.
Alors qu'il est un détenu exemplaire, puisque d'ailleurs il va être libéré, je crois, en 1939, après 9 ans de prison. Il a 40 ans. Il part en Floride, où il va rester les 8 dernières années de sa vie. Auprès de sa femme, on n'en a pas parlé, de son enfant, de son fils. Au fond, on a l'impression que c'était un homme qui rêvait d'être un bon père de famille, tranquille. Ce n'a pas été, évidemment, Philippe Labro.
Oui, mais enfin, en même temps, il faut bien voir que c'est une nature diabolique et maléfique. C'est un homme qui a tué, qui a corrompu. Je ne lui reconnais aucune vertu. Il souhaitait devenir vertueux au bout d'un moment, bien sûr, mais on ne peut pas effacer 30 années ou un peu plus même d'horreur et de saloperie. Donc, il y a ce que j'appelle une justice immanente. Elle a fini par arriver sous la forme d'une maladie. Il est tombé malade, il a commencé à avoir toutes sortes de problèmes. Et d'ailleurs, je pense qu'il était rongé par l'idée qu'il n'était plus le grand Capone quand il est sorti d'Alcatraz. Il lui restait encore beaucoup d'argent, bien sûr. Mais c'était fini. Les familles, ce qu'on appelle les familles mafieuses, avaient pris le pouvoir et avait recadrillé le pays, il appartenait déjà au passé.
Un gangstérisme nouveau, la loi sur la prohibition a été supprimée par Roosevelt, au moment, peu de temps après que Capone soit entré en prison, c'est plus les mêmes gangsters qu'on trouve. Alors, quand on vous lit, vous disiez, c'est un homme épouvantable, etc. Quand on vous lit, quand on voit des films dont on a entendu quelques extraits, c'est vrai qu'un homme aussi violent, aussi brutal que Capone puisse aujourd'hui faire sourire et être presque sympathique.
Ben, il fait sourire parce que c'est loin, alors donc on met ça maintenant sous forme d'un peu de parodie. Moi, le livre que j'écris est un peu parodique, un peu satirique. Et puis, il n'est pas sympathique forcément, mais il a quelque chose de pathétique, puisqu'encore une fois, je vous dis, c'est pas le gangster des films américains. Il est pas beau, il est petit, il est gros, il est laid, les filles le trouvent ridicule, il se balafre la gueule, il se fabrique un personnage. Le passé, et puis aussi la fascination, il faut l'avouer, que tout public peut avoir pour le diable. Hein. Il a quelque chose de diabolique. Donc ça fascine. Hein. Les bonnes histoires sont jamais faites de très bons sentiments. Hein.
Et on le retrouve donc dans votre roman, Philippe Labrault, qui a été écrit, je le rappelle, en 1960, il y a 45 ans, mais vraiment que je vois dans le document de lecture, parce qu'il est à la fois très drôle et très instructif. Un Américain peu tranquille, qui vient d'être réédité chez Gallimard dans la collection Folio. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, dont Je connais gens de toutes sortes, également paru chez Gallimard dans la collection Folio. Vous avez pu entendre des extrait des films suivants, Capone de Steve Carver avec Sylvester Stallone, disponible en VHS chez Continental Pictures, et Al Capone, un film de Richard Wilson avec Rod Steiger. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Armstam, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, ainsi qu'à Anne Kobilac pour la réalisation. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le dernier Premier ministre de la Troisième République, remplacé par Pétain en pleine débâcle le 17 juin 1940, Paul Reynaud. Il est 14h30, vous êtes sur France Inter et vous avez rendez-vous avec Éric Oswald.
Merci Patrice Gélinet, à demain.